Radio Kapi. Oh, Kapi. Naishinda Kambala pour le journal.
Entre espoir de paix et avancée du M23, l'Est de la RDC à la croisée des chemins. Boutembo, les dispositifs anti-Ebola pris pour cible au marché central. Navigation fluviale, la RVF se dote d'un bateau baliseur après plus de 40 ans. Pour en parler, nous recevons son directeur technique, Tchoumbou Cédric Luc. Il nous explique les rôles et l'avantage de cette unité technologique, aussi bien dans ces secteurs du Lualaba que dans les provinces concernées. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. La paix se négocie, mais sur le terrain, les lignes continuent de bouger dans l'est de la RDC. Plusieurs mois après les engagements pris à Doha et à Washington, les résultats tardent à convaincre. Pendant ces temps, l'FCM23 consolide sa présence militaire et administrative dans les territoires qu'elle contrôle au nord et au sud Kivu. Un décalage de plus en plus perceptible entre les promesses diplomatiques et les réalités vécues par les populations. Les précisions de Martial Papimoukeba.
Au sud Kivu, l'AFC-M23 poursuit son offensive et consolide son contrôle des points zéro, une position jugée stratégique par plusieurs sources sécuritaires. Selon ces dernières, cette zone pourrait servir de point d'appui vers d'autres axes, notamment en direction des provinces d'Imanima et d'Itanganyika. Dans le nord Kivu, le mouvement renforce également ses positions dans les sud du territoire des Lubero. La société civile redoute une reprise des affrontements dans cette partie de la province. Parallèlement, l'AFC-M23 poursuit l'installation de son administration dans les zones sous son contrôle. À l'approche de la prochaine rentrée scolaire, le mouvement attend désormais encadrer la gestion administrative et financière des établissements scolaires. Ces évolutions interviennent alors que les engagements pris dans les processus de Doha et de Washington peinent toujours à se traduire en actes. Dans les zones touchées par les conflits, de nombreux habitants attendent encore que les négociations débouche sur un retour durable de la paix. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et justement, derrière les chiffres et les négociations, il y a aussi les histoires de vie de milliers de personnes toujours marquées par des années de conflits. Nous vous proposons les témoignages exclusifs d'une femme déplacée du Nord Kivu qui continue de porter les blessures de la guerre. En 2011, elle est contrainte de fuir les violences dans le sud du territoire de Lubero pour trouver refuge à Goma. Mais l'exil ne met pas fin à ses souffrances. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle passe de longues journées à parcourir les parcs nationaux à la recherche des braises au risque de sa propre sécurité. Son destin prend un nouveau tournant grâce à l'association Femmes du Soleil qui accompagne les femmes vulnérables et lui apprend à fabriquer des braseros écologiques. Une activité qui lui permet alors de retrouver un peu d'espoir. Mais depuis la crise de janvier 2025 à Goma, les difficultés ont refait surface. L'association peine désormais à écouler sa production, privant de nombreuses femmes de revenus. Et les récents affrontements ont ravivé chez elle les traumatismes et les violences qu'elle avait fouies il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres habitants de l'Est du pays, elle n'aspire qu'à une chose, le retour d'une paix durable. Son témoignage est recueilli par Rosalie Zawadi.
Si yekwetu. Tuliteseka sana vita make, vita ikishafika.
Chez nous au village, nous avions beaucoup souffert de la guerre. Lorsqu'il y a des combats au village, les hommes armés importent tout ce qu'on a comme élevage. Nous avons tout abandonné. Nos champs, ils ont consommé notre bétail, nous sommes restés mains vides. Pendant que nous commencions à nous habituer à la vie de la ville, la guerre est arrivée à Goma aussi et nous a replongés dans notre situation initiale. Et là, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons fui la guerre au village et nous retrouvons la guerre ici aussi. Ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est de ramener la paix, que la vie redevienne normale, car pour le moment, il n'y a pas d'emploi. Nos enfants n'ont plus rien et nous ne savons plus quoi faire. Car nous fabriquons nos braseros, mais à cause de la crise actuelle, pour avoir la clientèle, c'est devenu très difficile. Nous sommes perdus.
Aujourd'hui, cette mère de cet enfant lance un appel à tous les acteurs impliqués dans les conflits. Elle leur demande de choisir la voie de la paix parce que cette situation marque les populations à vie. Fin de citation. La santé à présent avec une alerte qui nous est parvenue ce week-end depuis Ituri. La maladie à virus Ebola poursuit sa progression dans cette province au nord-est de la RDC. En seulement 48 heures, 42 nouveaux cas confirmés et 24 décès ont été enregistrés dans les zones de santé de Bunia, Nizi et Rwampara. Ces chiffres sont contenus dans les derniers rapports épidémiologiques publiés samedi par le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Face à cette évolution, les autorités sanitaires se disent préoccupées par la vitesse de propagation de cette 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et appellent au renforcement des mesures de riposte. Plus de détails avec Martial Kizabiamongo.
Au total, 43 nouveaux cas de la maladie à virus d'Ebola, dont 42 à Ituri et 1 au Nord Kivu, ont été enregistrés ces deux derniers jours. Les centres d'opération d'urgence des santé publique CUSP-RDC, dans son dernier rapport, parle d'un cumul de 1873 cas confirmés et 672 décès, soit un taux de létalité globale de 36% depuis la déclaration de cette 17e épidémie au pays le 15 mai dernier. Les centres d'opération d'urgence de la riposte contre Ebola indiquent que c'est pendant que 6 nouveaux patients ont été déclarés guéris et sortis d'hôpital le samedi dans la province de l'Ituri. Enfin, CUSP-RDC annonce l'expansion désormais de l'épidémie dans les provinces de la Tchopo et Otuélé, avec des cas confirmés venus probablement de Nyanya dans les territoires de Mambasa, d'Ituri, Bunia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Santé toujours avec ces faits aussi surprenants qu'inquiétants enregistrés à Butembo au Nord Kivu. Plusieurs dispositifs de prévention contre la maladie à virus Ebola ont été volés ou détruits au marché central de la ville. Le constat a été fait par les autorités locales lors d'une mission d'inspection menée sur place. Alors que la province fait face à une nouvelle menace épidémique, ces actes de vandalisme compromettent les efforts de prévention et de riposte déployés pour protéger la population. Les autorités appellent ainsi les commerçants et les usagers du marché à faire preuve de civisme en veillant à la protection de ces équipements sanitaires installés pour lutter contre la propagation de la maladie. Plus de précisions avec Martial Papimokeba.
Des réservoirs d'eau ont été emportés et plusieurs équipements de lavage des mains ont été endommagés par des personnes non encore identifiées. Ces installations avaient été placées il y a quelques semaines aux principales entrées du marché central de Butembo pour renforcer les mesures de prévention contre Ebola. Le constat a été établi jeudi par Gérard Kakulenga Yembako, chef du bureau urbain de l'économie nationale, lors d'une mission menée sur place. Accompagné des responsables du marché, la délégation a appelé les commerçants à préserver ces dispositifs et annonce l'installation de nouveaux équipements dans les prochains jours. Le marché central de Butembo accueille quotidiennement plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles des commerçants et des voyageurs en provenance notamment des Beni et des Bunia en Ituri, épicentre de l'épidémie. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières, notamment les lavages réguliers des mains et l'utilisation du désinfectant après la manipulation d'argent. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pour boucler ce chapitre santé, intéressons-nous à la grève des médecins dans les hôpitaux publics de Kinshasa, un mouvement qui semble franchir un nouveau cap. Dans plusieurs structures sanitaires visitées par notre rédaction, notamment l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaïmo et la clinique Ngaliema, les conséquences se font déjà sentir. Des patients repartent sans être pris en charge et même certains cas d'urgence, parmi lesquels des femmes enceintes peinent à accéder aux soins, suscitant l'inquiétude et le désarroi de leurs proches. Alors que les revendications des médecins restent au cœur des discussions avec les autorités, de nombreux malades se retrouvent aujourd'hui pris au piège de ces bras de fer. Un reportage signé Blaise Ndongala Mayanda.
Dans les hôpitaux publics de Kinshasa, seuls les infirmiers sont visibles. Mais sans les médecins, ils ne peuvent rien faire, laissant les patients hospitalisés à leur triste sort. Alex Mamayemo, à la clinique Ngalima, comme dans la majorité des établissements hospitaliers de l'État, les services non urgents sont à l'arrêt. Certaines familles, venues avec leurs frères ou sœurs malades, ont été stoppées à l'entrée et contraintes de se tourner vers les structures privées. De nombreux ménages se voient ainsi obligés de renoncer purement et simplement aux soins, ce qui entraîne des conséquences graves pour la santé publique. Les patients hospitalisés ne sont pas non plus épargnés par ces mouvements de cessation de travail des médecins. Dans son lit d'hospitalisation, Alex Mamayemo, un patient souffrant d'asthénie, a décidé de quitter l'hôpital faute de recevoir des soins appropriés. Depuis le début du mois de juillet courant, les syndicats libres des médecins Silimed ainsi que d'autres syndicats ont décidé d'intensifier leur mouvement en lançant l'opération baptisée Hôpital sans médecin. Cette mesure marque un tournant dans une grève qui avait commencé avec une polarisation des urgences.
Poursuite de ce journal avec cette opération menée par les autorités urbaines de Kananga pour encadrer la vente de boissons alcoolisées. La mairie a décidé à renforcer les contrôles contre la commercialisation des boissons fortement alcoolisées dans les espaces publics. Dans son viseur, la boisson communément appelée chichampa, ainsi que d'autres liqueurs consommées à ciel ouvert. Depuis plusieurs jours, une brigade municipale appuyée par la police nationale congolaise multiplie les descentes sur le terrain pour traquer les contrevenants et faire respecter cette mesure. À travers cette opération, la mairie entend restaurer l'ordre public et réduire les cas de violence, de troubles sociaux et d'accidents souvent associés à l'abus de l'alcool. Reportage d'André Katendenga Lamouloumé.
Il est 8 heures du matin. La brigade de la mairie, accompagnée des policiers, parcourt les rues de Kananga. Au rond-point Notre-Dame, il repère un vendeur de boissons alcooliques. Les bouteilles sont saisies et la boisson versée au sol. Le vendeur tente de s'expliquer. Les agents restent fermes. Ils rappellent que la vente d'alcool est désormais interdite en milieu public. Plusieurs vendeurs rangent précipitamment leurs marchandises à l'arrivée de la brigade. Cette opération vise à réduire les troubles à l'ordre public et les accidents liés à la consommation excessive d'alcool, comme l'explique Jean-Louis Chipamba, maire de la ville adjoint.
La ville est saturée par le vente de boissons alcooliques. Et ça amène la population ou la jeunesse entre-kassaïenne à des actes inciviques.
Dans la rue, plusieurs habitants saluent cette initiative.
Moi, je vois qu'en interdisant la vente de ces boissons sur les grandes artères de la ville de Kananga, l'autorité urbaine cherche à protéger la population et à garantir un cadre de vie plus sain.
Mais tous ne partagent pas cet avis. Certains vendeurs redoutent de perdre leur seule source de revenus. Mais la mairie assure que les contrôles vont se poursuivre. Elle prévient que tout contrevenant s'expose à des sanctions. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Place à présent à cette alerte lancée depuis le territoire de Calais au sud Kivu. La nouvelle société civile congolaise dénonce une recrudescence de l'exploitation des enfants pendant cette période des vacances scolaires, particulièrement dans le groupement des Mbinga Nord. Selon son président Benjamin Munganzi, de nombreux enfants sont impliqués dans des activités dangereuses, notamment la pêche, le transport de lourdes pierres et d'autres travaux pénibles qui les expose à des sérieux risques pour leur santé et leur sécurité. L'acteur de la société civile s'inquiète également du sort d'autres enfants qui passent leur journée loin du regard de leurs parents dans des endroits parfois inconnus, les exposant à des accidents et à diverses formes de maltraitance. Face à cette situation, la nouvelle société civile appelle les autorités, les organisations de protection de l'enfance ainsi que les personnes de bonne volonté à agir rapidement pour protéger les droits et les bien-être des enfants. Benjamin Munganzi est joint par Ronéline Tibonera.
Pour cette période de vacances, il s'observe une situation médiocre chez les enfants dans les territoires de Calais, dans la province du Sud, qui vit plus particulièrement dans le groupement de Mbinga Nord, et qui peut être à la base des accidents ou même de la mort. Plusieurs enfants passent la journée dans des endroits inconnus par leurs parents. D'autres sont utilisés à la pêche, et d'autres font de lourds travaux tels que de transporter des pierres sur leur tête ainsi de suite. La nouvelle société civile condamne ces actes faits aux enfants, en demandant aux personnes de bonne volonté, aux organisations chargées de la protection des enfants de s'impliquer, venir en aide ces enfants du territoire de Calais et plus particulièrement dans le groupement de Mbinga Nord avec les objets qui peuvent les empêcher de quitter, mais aussi les objets de jeu, football, perception ou école de récupération et autres pour les protéger contre les risques qui peuvent surgir dans les avenirs. Nous interpellons la conscience de tout un chacun. Qui sera attrapé en train de faire travailler les enfants dans des travaux difficiles, il sera interpellé par les autorités civiles et répondre aux actes.
Retour à Kinshasa où la saison sèche s'est désormais bien installée avec ses températures plus fraîches, ses vents et son importante présence de poussière. À Kimbondo, dans la commune de Mongafula, les habitants adaptent progressivement leurs habitudes à cette période de l'année. Comment les habitants vivent-ils cette période et quelles précautions prennent-ils au quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Gloriane Lepeya.
À Kimbondo, un quartier réputé pour ses basses températures pendant la saison sèche, les habitants redoublent de précautions pour faire face au froid. Une mère de famille explique les dispositions qu'elle prend pour protéger ses enfants durant cette période.
Avec la saison sèche, ici à Mongafula, c'est pas facile. Hein. Comment moi je fais? Je ne lave pas les enfants tous les jours. Au moins, je prends les gants pour le débarbouiller seulement dans la maison. Les jours qu'il y a le soleil pendant la journée, là, je peux leur laver. Et ils sont toujours couverts de pulls avec bonnet, parfois de chaussettes, de bas, pour couvrir contre le froid.
De son côté, Arlène, habitante de Kimbondo, évoque les changements qu'elle apporte à son habillement et ses déplacements pour faire face aux rigueurs de la saison sèche.
Pour la saison sèche, j'ai déjà eu comme habitude de pouvoir m'y préparer déjà bien avant. J'achète des pulls, des chaussettes pour moi et pour les enfants. J'ai l'habitude de pouvoir prendre la tisane si je dois sortir, me déplacer. Généralement ici, on prend des motos parce que notre route et les trafics est vraiment assez difficile. Il y a des embouteillages, donc il faudra avoir un cache-nez pour se protéger contre la poussière.
Une réalité saisonnière qui rappelle que le climat influence aussi les gestes les plus simples du quotidien.
Actualité internationale.
Au Sénégal, des femmes et jeunes filles ont manifesté ce dimanche après-midi à Dakar pour alerter sur les cas de féminicides au Sénégal. En l'espace de 24 heures cette semaine, les 9 et 10 juillet, une jeune femme et une enfant de 2 ans ont été tuées, s'ajoutant à 7 autres meurtres de femmes depuis le début de l'année 2026.
L'invité.
Et pour terminer, place à notre invité, la régie des voies fluviales dans son premier secteur, Lualaba Ubundu Kindu, vient de franchir une étape importante avec l'acquisition d'un bateau baliseur, une première depuis plus de 40 ans. Cet équipement est appelé à renforcer les balisages et la sécurisation de la navigation sur les voies fluviales de cette région stratégique du pays. Quel est concrètement le rôle de cette unité technologique? Quels avantages offre-t-elle aux usagers du fleuve et aux provinces desservies? Des éléments de réponse dans cet entretien avec le directeur technique de la régie des voies fluviales, Chumbu Cédric Luc. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Chumbu Cédric Luc, bonjour.
Bonjour madame.
La RVF, premier secteur du Lualaba Ubundu Kindu, vient de se doter d'un bateau baliseur. Dis-nous, c'est quoi un bateau baliseur et c'est quoi son rôle?
Le gouvernement de la République vient de doter, n'est-ce pas, le premier secteur du Lualaba d'un bateau baliseur. Le baliseur, c'est en fait une unité flottante qui a pour vocation d'aménager et d'entretenir les routes de voies navigables.
Depuis combien de temps vous étiez sans cet outil?
En tout cas, ça fait plus de 40 ans que le premier secteur n'a plus bénéficié, n'est-ce pas, de la présence d'un baliseur. Et très souvent, lorsqu'il fallait par exemple travailler, nous étions obligés de recourir à des unités, des privés pour pouvoir, n'est-ce pas, aménager les routes de navigation.
Le manque de ces bateaux baliseurs, ça avait quoi comme conséquence dans votre service?
La conséquence était la rareté de nos interventions sur les secteurs. Vous allez constater que malheureusement, parce qu'on n'avait pas d'unité, on pouvait faire plus de 5 ans sans pour autant aller vraiment en secteur intervenir de manière continue. Nous avions que des interventions ponctuelles.
Les travaux de ces baliseurs, quand vous dites que c'est pour aménager la route sur le fleuve, il s'agit exactement de quels travaux?
Voilà, lorsque nous parlons des travaux d'aménagement et d'entretien de voies navigables, il s'agit de la pose des signaux de balisage. Nous avons des signaux flottants, mais aussi des signaux dérive. Les signaux flottants sont constitués des bouées. Et ces bouées, généralement, ont pour rôle, n'est-ce pas, d'isoler tous les dangers présents sur le chaînal de navigation. Et les signaux dérive, par contre, nous indiquent indique la route à suivre lorsque le navigateur est en pleine navigation.
La RVF, quelle garantie avez-vous pour la survie de ces bateaux baliseurs aujourd'hui?
Nous, en tant qu'établissement public, nous sommes un service public de l'État. L'État prend toutes les dispositions pour mettre le moyen nécessaire lorsqu'il est faux, quand nous présentons le besoin auprès de la RVF pour pouvoir maintenir. Mais au-delà de tout ça, il revient, n'est-ce pas, aux utilisateurs de ces baliseurs de prendre toutes les dispositions pour garder le plus longtemps que possible l'unité et ne pas le gaspiller.
Ça représente quel avantage économique pour les provinces?
Voilà, par rapport aux avantages économiques, il ne faut pas oublier que les voies d'eau sont les routes qui transportent la plus grande quantité de marchandises. Et c'est que une unité fluviale, une barge peut transporter en une seule course, peut-être il faut parler en termes des millions de courses d'avions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ces transports, et plus d'une centaine de camions. Donc les voies navigables telles qu'elles sont là, elles représentent, n'est-ce pas, une valeur ajoutée par rapport au développement économique de la province.
Quelle est la capacité de ces bateaux baliseurs?
Bon, les bateaux baliseurs, en termes de capacité, le bateau n'a pas la faculté de transporter les cargaisons. Le bateau baliseur, lui, il va aménager la route pour que les bateaux qui ont la mission de transporter des cargaisons puissent passer en toute sécurité.
Pour que vous ne puissiez pas retomber ou bien retourner au point zéro où vous avez fait plus de 40 ans sans pour autant avoir des bateaux baliseurs, quels conseils allez-vous donner aux utilisateurs, bien sûr, vos collaborateurs de la RVF, mais aussi à la population bénéficiaire?
Le conseil, c'est celui de gérer ce bien si précieux en père de famille et mère de famille, parce que vous savez, comme on le disait tantôt, la vie des personnes qui utilisent les voies d'eau dépendra tellement de travaux que vont réaliser cette unité. Et donc, à nos collaborateurs, à nos collègues, nous leur demandons de faire bon usage de ce bateau et aux populations de pouvoir accueillir favorablement les travaux, parce que c'est pour l'intérêt de la population que ces travaux vont être réalisés.
Pour terminer, ces travaux ont pris combien de temps et quel a été le coût global pour ces travaux?
En réalité, ça va faire bientôt 10 ans depuis que les travaux avaient été suspendus, parce que la construction de ces baliseurs est partie d'un financement de la Banque mondiale qui s'est arrêté, n'est-ce pas, en 2017 avec la fin du projet PTM. Et ben, le gouvernement congolais, sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris les choses en main pour pouvoir financer, n'est-ce pas, les travaux de finissage de tout ce qui était resté depuis 2017. Et il faut retenir que c'est plus ou moins plus $1 million ont été investis par le gouvernement pour pouvoir finaliser et les travaux du baliseur Kindu, mais aussi le baliseur qui est en phase de finition à Kongolo.
Tchombo, Cédric Lico, je vous remercie.
Merci, madame.
C'est aussi la fin de notre journal de ce matin. Merci de nous avoir suivis.